Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller au chapitre 47 du livre de la Genèse et on va lire tout le chapitre. Genèse, chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés au pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozan. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation? » Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozan. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozan. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie? » Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, car ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissait à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? » Car l'argent manque. Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit aussi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. » que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Joseph vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Alors, je vais vous asseoir. Il nous reste probablement, il reste 48, 49, 50. Je pense que qu'il y en a un des chapitres que je vais faire sur deux semaines à cause du chapitre où Jacob fait des prophéties sur l'ensemble des tribus. C'est tellement riche. Quand on se met à lire ça puis à regarder ce que les commentaires disent, ce serait faire ce chapitre-là d'un shot, ce serait comme manquer beaucoup. Fait qu'on va prendre deux sermons. Fait qu'il en resterait quatre. Fait que fort probablement pour débuter l'Apocalypse, ça irait vers la mi-septembre, quelque chose comme ça. Ça l'entoure. C'est pas rien de couler le ciment, là, mais ça devrait être à peu près ça. Alors, je vous invite encore une fois, je vous rappelle de continuer à prier pour que l'Éternel m'éclaire et vous éclaire aussi à la compréhension du livre de l'Apocalypse, qui n'est pas un livre qui est là pour nous embêter, pour nous montrer qu'il est impossible à comprendre, mais c'est un livre qui est là pour nous encourager, pour nous rappeler que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui arrive sur la terre et dans nos vies. Alors aujourd'hui, chapitre 47, je l'ai intitulé « L'apport vital et providentiel de Joseph ». L'apport, c'est quelque chose qu'on apporte. Vital, ça veut dire que c'est la vie même. Autrement dit, si Joseph n'avait pas été élevé au rang de celui qui était en charge de la distribution des... Et s'il n'avait pas bien interprété les rêves, ça aurait résulté en catastrophe, toute cette histoire-là. Alors, vital, c'est non seulement le Seigneur s'est servi de Joseph pour permettre que son futur peuple, la nation d'Israël naissante, puisse se développer comme lui l'entendait, mais aussi, ça a protégé la vie de l'Égypte elle-même, du pays d'Égypte. Et bien entendu, il devait sûrement avoir d'autres pays qui se rendaient en Égypte pour aller chercher du blé. Alors l'Éternel a été d'une grande bonté. Donc l'apport vital et providentiel, pourquoi je dis providentiel? Parce que Dieu se sert de la personne de Joseph pour faire une grande œuvre, à la fois pour son peuple à lui et à la fois pour le peuple d'Égypte. Et à la fois aussi pour continuer la lignée messianique. Parce que quand on lit le livre de la Genèse, il faut continuellement garder à l'esprit les promesses que Dieu a faites. Genèse 3.15, on est rendu en Genèse 47, c'est loin, là. Mais est-ce qu'on se rend compte que dans ce qu'on lit aujourd'hui, il y a de l'accomplissement de ce que le Seigneur a promis qu'il enverrait le Messie? Autrement dit, il n'envoie pas le Messie nécessairement tout de suite, mais il permet que la chaîne menant vers l'accomplissement se continue. Et si le Seigneur n'avait pas sauvé la nation d'Israël naissante, et particulièrement Juda, parce qu'on sait que Jésus vient de la nation, vient de la tribu de Juda, à quelque part, le Messie n'a pas arrivé. Mais quand le Seigneur fait une promesse, même si ça prend 2000 ans avant de l'accomplir, dites-vous une chose, c'est que le Seigneur prend tous les moyens pour que la chose arrive. Alors, le texte nous apprend que 17 années se sont écoulées depuis que les frères de Joseph l'ont vendu comme un esclave aux Ismaélites, devenir un esclave en Égypte. Bien entendu, durant toute la période de 17 ans, là, ils devaient vivre avec cet acte criminel-là continuellement dans leurs esprits. Et ce qui leur rappelait la gravité de leur péché, c'était de voir leur père. Parce que Jacob, là, quand il y a eu cette nouvelle-là concernant Joseph qui était mort, quand ils ont montré sa tunique avec du sang dessus, lui, ça l'a, comme on pourrait dire, des fois on dit en québécois, ça l'a tué. Mm-hmm. Ça fait que durant toutes ces 17 années-là, le Seigneur permettait, par sa providence, qu'ils voient le résultat. Alors, durant ces 17 années-là, s'ils pensaient, le père va l'oublier au bout d'un an ou deux, mm-hmm. ça n'a pas été le cas. Alors, le Seigneur a permis qu'ils voient devant leurs propres yeux la gravité et les effets du péché du mal qu'ils ont fait. Alors, bien entendu, lui, Jacob, il croyait que son fils avait été déchiré par les bêtes et il croyait qu'il ne le reverrait jamais. Ce qui est merveilleux du livre de Genèse, c'est quand on regarde les choses, comment les gens perçoivent certaines situations et comment Dieu conduit par en arrière. Et ça, si on s'arrête, faut penser que le livre de la Genèse nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Le Seigneur fait la même chose dans nos propres vies. Et des fois, on arrive devant des situations, on est sûr qu'il n'y a pas d'issue, on s'en sortira jamais, je suis fini, on est fini, ça ne marchera pas. Pour l'Éternel, il n'y a rien d'impossible. Alors, c'est très important de se souvenir de ça. Et là, ce qui venait compliquer toute cette histoire-là, ça faisait 17 ans qu'ils vivaient ensemble et les enfants qui se souvenaient continuellement de leur acte criminel. Il arrive un autre tuile. Elle n'a pas bien déjà, là. La famille était déjà à moitié morte, comme on dit. Et il arrive un autre tuile, une immense famine. On sait que, par le texte qu'on vient de lire aujourd'hui, que ce n'était pas une petite famine, parce que quand il est rendu que le peuple d'Égypte était rendu qu'ils se vendent eux-mêmes, il n'y avait plus de bétail, il n'y avait plus d'argent, tout était vidé. On se souvient, quant à Joseph, lui qui avait vécu des expériences en Égypte qui étaient vraiment douloureuses et traumatisantes. Tu prends un fils préféré qui avait des robes de couleur, qui était considéré comme un noble, et tu prends puis tu l'envoies comme esclave en Égypte. En plus, il arrive là-bas puis il se fait accuser d'un viol de Potiphar, qui était un haut fonctionnaire de Pharaon. Ce qu'il n'avait pas fait. Mais là, quand on dit l'apport vital et providentiel, c'est là qu'on voit comment Dieu travaille. Il y a des choses qui se produisent dans nos vies qu'on ne voit pas pourquoi Dieu nous envoie ça là. Parce que Joseph, durant toutes ces 17 années-là, là, il ne savait pas ce qui se passait. Il était en prison, mais malgré tout ça, il gardait la fidélité au Seigneur, gardait sa vie de prière, il avait un excellent témoignage comme un bon administrateur, et c'est ça qui a fait la montée. Et Dieu le bénissait. Malgré sa difficulté, Dieu le bénissait. Il faut retenir que dans nos vies personnelles, il y a des situations, c'est sûr, on parle pas d'Égypte, on parle pas de famine, mais on parle de difficultés, on parle d'épreuves. Le Seigneur fait exactement la même chose dans nos vies. On ne comprend pas toujours pourquoi il agit d'une certaine façon. Des fois, c'est le recul. Après des années, on se rend compte qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il prépare aussi pour l'avenir. Alors, bien entendu, les rêves de la bénédiction de Dieu et le fait qu'il ait fait comprendre à Joseph la nature des rêves et que ce serait cette année de très grande abondance durant ces années-là que tu prendrais du blé et que tu l'accumulais dans des greniers un peu partout pour les sept années qui viendraient. Et ce n'était pas cette année ordinaire. On l'a vu où ce qui était rendu. Vers la fin des sept années, là, tout l'argent de l'Égypte était vidé. Il n'y avait plus de troupeaux, Il restait juste leur corps et leur terre, ils ont tout vendu. Mais hein, on voit que Dieu est en arrière de tout cela quand même. Alors, le Seigneur travaillait dans l'ombre pour le bien de Joseph. Alors, ces deux fameux songes-là ont sauvé la vie de la jeune nation d'Israël naissante. Alors, on va regarder la première idée. C'est la part de Joseph. Dans le fond, on va regarder qu'il y a trois idées aujourd'hui dans ce texte-là, à mon avis. Tu as la part de Joseph à Israël, qui était la jeune nation naissante. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, pour leur préserver la vie. Mais la deuxième idée, c'est la part de Joseph à l'Égypte. Dieu, dans sa providence, a permis que Joseph se ramasse en Égypte, mais ce qui a eu pour effet de sauver la vie d'un peuple entier. L'Égypte, c'était quand même... Pour l'époque, c'était comme l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Alors, c'était important, là. Alors, la deuxième idée, c'est l'apport de Joseph à l'Égypte, du verset 13 à 26. Et la dernière, c'est l'apport de Joseph à l'Alliance. Autrement dit, l'Alliance, Dieu avait promis à Abraham des choses concernant... la terre, l'endroit, il avait fait la promesse comme de quoi qu'il... Il n'y a pas la promesse, mais il avait fait la prophétie comme de quoi il irait pendant 400 ans en Égypte. Et durant ces 400 ans-là, le Seigneur s'en est servi pour enseigner des choses à son peuple. Alors, il y a trois idées dans le texte. C'est vraiment l'apport de Joseph à Israël, l'apport de Joseph à l'Égypte et l'apport de Joseph à la continuation de ce que Dieu avait promis pour que le Messie éventuellement arrive. Alors, on va regarder la première idée, la part de Joseph à Israël. Alors, Israël, c'est une nation naissante. Ils sont quand même, on a parlé de 70, et le Seigneur lui avait dit à Abraham qu'il les enverrait dans un pays étranger, l'Égypte, pendant 70 ans, et qu'il les ferait sortir. Et qu'il est. Mais la raison pour laquelle il voulait aller en Égypte, que le Seigneur voulait qu'il aille en Égypte, c'était vraiment pour enseigner son peuple. Alors, la vie de la jeune nation naissante d'Israël était définitivement très menacée par cette terrible famine. Alors, le Seigneur avait quand même tout prévu, et par son contrôle providentiel, Joseph avait été élevé à un très haut niveau de rang social. Il était rendu comme... Il y avait le premier ministre, il était juste en dessous. Alors, il avait été initié, Joseph, par le Seigneur lui-même, que cette famine durerait 7 ans et qu'elle serait suivie... Il y aurait d'abord une période de 7 ans de prospérité, suivie de 7 ans de très grande famine. Alors, Joseph avait compris très bien comment Dieu avait travaillé. Pourquoi qu'il l'avait compris? Parce qu'on le voit dans le chapitre 45. Dans le chapitre 45, ça disait dans le verset 4 et 5, « Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Donc, Joseph, avec le recul, avec toutes les expériences douloureuses qu'il avait vécues, il avait quand même assez de vision spirituelle pour s'apercevoir que tout ce qui était arrivé, c'était dans le but de sauver son peuple. C'était une bénédiction. Mais durant les 17 années, c'est long 17 ans là. Long, là. Quand tu vis une épreuve et qu'elle dure 17 ans, tu te poses des questions. Coudonc, Dieu, m'as-tu oublié? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi Dieu m'envoie en prison? Et pourquoi, là, les gros points d'interrogation, il devait en avoir énormément dans son esprit? Mais il y avait quand même suffisamment de connaissances spirituelles et de perceptions spirituelles pour se rendre compte que c'était Dieu qui menait tout cela. Alors, il y a plusieurs choses que Joseph apporte à la nation naissante d'Israël. La première, c'est empêcher la désintégration familiale et nationale, même si c'était une jeune nation, il y avait une famille, là, que si Dieu n'avait pas intervenu, ça aurait pu se désintégrer tout ça. Et Dieu permet que la famille reste ensemble, non seulement la famille reste ensemble, mais la jeune nation naissante, Dieu l'envoie à un endroit où les conditions favorables à leur développement vont être assurées. C'est l'intelligence de Dieu, notre seuil, la sagesse de Dieu est très grande. Alors, on voit que Joseph est allé avertir Pharaon. Il a dit, mes frères, mon père est arrivé. Il voulait, même s'il était le second, il aurait pu aller les installer. On voit que Joseph était quand même une personne sage. Il y avait plus haut que lui en termes d'autorité dans le pays. Et il prend la peine, quand il a vu que sa famille était... d'aller les présenter au Pharaon. Et on a vu que Pharaon les avait quand même très bien reçus. Donc, première chose, désintégration familiale et nationale, qui est de les sauver de la famine. Parce qu'on a vu dans le texte là, que si ça va, il sera mort. Alors Dieu se sert des choses semblables. Et la deuxième chose, qui Dieu se sert de l'apport de Joseph dans la vie de la jeune nation, c'est l'accomplissement de la prophétie de leur séjour en Égypte pendant 400 ans. Il faut reculer encore là. Lire la Genèse, il faut toujours reculer en arrière puis se rappeler ce que le Seigneur a dit. C'est ça le problème. Des fois, on lit la Bible et on oublie ce que le Seigneur a dit. Genèse 15, versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, oui, il ne porte même pas encore le nom d'Abraham qui a fait cette prophétie-là. Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront. Déjà, Dieu leur faisait comprendre que pendant 400 ans, être opprimé, là, c'est pas drôle. Quand on lit le livre de l'Exode, après on comprend que tout ce qu'ils leur ont fait vivre, qu'ils l'opprimeront pendant, il leur dit même le nombre d'années. Ça prend un Dieu omniscient là, pour être capable de faire ça. Non seulement vous allez y aller, vous allez aller en Égypte, puis là, il leur dit le nombre d'années qu'ils vont rester là. Après ça, le verset 14, « Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. » Donc, l'Éternel va les juger. On se souvient des 10 plaies d'Égypte, tout ce qu'il a fait pour que Pharaon finisse par les faire sortir. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. On se souvient qu'ils ont demandé des vases d'or, puis le Seigneur a permis qu'ils ne sortent pas à vide. Donc, deuxième chose, la désintégration familiale et nationale ne s'est pas faite. La deuxième chose qui a apporté à la nation naissante, c'est l'accomplissement de ce qu'Abraham avait reçu comme prophétie, comme de quoi il irait là 400 ans. La troisième chose, c'est leur préservation de leur identité comme pèlerin. Donc, un pèlerin, c'est un résident temporaire. Quelqu'un qui, il sait qu'il est là. La Bible nous dit que c'est ça qu'on est, nous, des pèlerins temporaires. Et aussi comme berger. Parce qu'on sait que pour les Égyptiens, les bergers, c'était abominable. Pour eux, un berger, c'est... Alors, à quelque part, il y a des leçons spirituelles là-dedans. Et aussi, l'autre rapport, c'est que Joseph, à cause de ce que Dieu avait fait dans sa vie, ne soit pas un homme qui soit porté à la vengeance. Imaginez un homme qui aurait été porté à la vengeance où il était rendu, puis il les avait sous sa domination. Il aurait pu faire une grande razzia, comme on dit. Alors qu'il prend cinq de ses frères et il les emmène à Pharaon, dans le chapitre 47, versets 2 à 4, et il leur dit... Il leur dit pas des mensonges à Pharaon pour pas que les Égyptiens les haïssent. Il dit même, tes serviteurs sont bergers. Il savait que les Égyptiens haïssaient les bergers. Mais il compte pas de mentir pour leur éviter des problèmes. Tes serviteurs sont bergers. Puis après ça, il leur dit dans le verset 4, c'est pour séjourner dans le pays. Donc la question de la préservation du pèlerinage. Ils sont pas là pour la vie. Oui, pour leur vie dans certains cas, mais pas pour une période indéfinie de temps. Et Autre chose que le Seigneur va se servir de la part de Joseph, c'est pour la protection et la promotion sociale. On prend une nation que si Joseph n'aurait pas été en place, il crevait. Non seulement il leur donne ce qu'il faut pour préserver leur vie, mais socialement, il les élève. Il leur donne, c'est un peu comme si tu irais aux États-Unis aujourd'hui, puis que le président te dirait, « Va t'installer dans la meilleure partie des États-Unis, là où c'est le plus riche, puis installe-toi là. » Donc, le Seigneur se sert de Joseph pour prendre son peuple et leur faire une promotion sociale, une promotion royale. Parce qu'il leur dit dans le verset 5 et 6, « Qu'il demeure dans le pays de Goshen, et qu'il y ait... » Après ça, il leur dit la meilleure partie du pays. Et même, il va plus loin comme promotion sociale, il leur dit, « S'il y en a parmi ta famille qui sont des hommes capables, confie-leur mes propres troupeaux. » Alors, c'était une promotion pour eux. Autre chose, il leur apporte la protection. Intéressant de noter dans ce chapitre-là, quand on regarde deux personnages, on regarde Pharaon, on regarde Jacob, lequel qui était le plus important socialement? Pharaon. Lequel qui était le plus important spirituellement? D'habitude, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Et ici, on voit dans le texte que c'est Jacob qui bénit Pharaon. Alors, au point de vue social, Pharaon lui est supérieur, mais au point de vue spirituel, Jacob lui est supérieur, puisque c'est lui qui donne la bénédiction. Voyez-vous, dans le verset 7, ça dit, « Alors Joseph amena Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. » Et dans le verset 10, c'est dit à deux reprises, et Jacob bénit Pharaon, puis il sortit de devant Pharaon. La réponse de Jacob à la question de Pharaon sur le nombre des années de sa vie peut paraître surprenante, quand on s'arrête un petit peu. Là. Lorsque Jacob répond, « Les jours des années de mes pèlerinages sont de 130 ans, les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères du temps de leur pèlerinage. » Ça ne semble pas correspondre au fait qu'il a 130 ans, lui, là, et qu'il va vivre encore pendant 17 ans au pays d'Égypte avant qu'il crève. Chose que on ne prend pas conscience nécessairement de ça en lisant le texte rapidement. Pendant combien d'années que Joseph avait été avec son père? Chez eux, dans la paix, avant que ses frères le vendent? 17 ans. Pendant combien de temps que Jacob va rester au pays d'Égypte sous la protection de Pharaon et sous la foi? 17 ans. Quelque chose de merveilleux, là, juste à penser à ça. Là. Le Seigneur lui donne le nombre d'années. Il lui dit qu'il va vivre jusqu'à 147, donc il a 130. Il va vivre 17 ans. Et Joseph avait 17 ans lorsqu'il a été vendu. Il est 17 ans avec son père, et 17 ans, c'est très intéressant comme idée. Alors, le texte nous rappelle, dans les versets 7 à 10, que la vie nous apprend trois choses sur la vie du peuple d'Israël. Notre vie est un pèlerinage. Et ça, on peut faire très bien un parallèle avec notre vie comme chrétien. La vie, le Seigneur dit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que nous sommes des pèlerins. Les pèlerins, c'est quelqu'un qui voyage, qui ne s'accroche pas à une place. Les pèlerins, c'est ça qu'on est. Ils disent, notre destination finale, c'est le ciel. C'est pour ça qu'on n'est pas porté à vouloir s'installer de façon définitive sur la terre. Deuxième chose, il lui rappelle que c'est un pèlerinage qui est de courte durée. Et il lui rappelle aussi, parce qu'il dit, mes jours ont été courts et mauvais. Il est en train de lui rappeler que notre pèlerinage, ce ne sera pas quelque chose qui va être facile. Ça va être quelque chose qui va être difficile. Dans les versets 11 et 12, on apprend que la part aussi que Joseph va apporter à la nation naissante, c'est vraiment la question qui va leur donner du pain. Verset 12, « Et Joseph fournit du pain son père, ses frères et toute la maison de son père, selon le nombre de ses enfants. Autrement dit, toute la famille des 70, non seulement ils vont traverser très, très, très bien cette grande période de famine-là, mais que le Seigneur va les établir dans la meilleure partie du pays, protégés en plus, dans une partie un peu isolée, mais c'était voulu du Seigneur que ce soit dans une partie isolée, ce qui va les protéger des intermariages avec les Égyptiens, ce qui va les protéger aussi d'apprendre leur péché d'idolâtrie, parce que c'était des idolâtres. Alors le Seigneur va se servir, il va les emmener là, mais dans le but que ça se développe et dans le but de leur enseigner des choses. Maintenant, quand on regarde la deuxième idée, c'est la part de Joseph à l'Égypte comme tel, le pays d'Égypte lui-même. Alors, il sauve la vie du pays d'Égypte. Tout ce pays-là serait littéralement crevé de faim si Dieu n'avait pas donné l'interprétation correcte du rêve que Dieu avait permis que Pharaon ait avec les vaches et les épis. Si Dieu n'avait pas donné l'interprétation. Et Joseph était tellement sûr de l'interprétation de Dieu, il le dit ouvertement, il va avoir 7 ans de famine, puis il va avoir 7 ans d'abondance, puis il a tout expliqué ça. Et Pharaon et toute sa cour étaient littéralement charmés. C'est un homme d'une très grande sagesse, confions-lui la gestion de toute cette période-là. Alors, il va permettre, le Seigneur permettre que l'Égypte va être sauvée, donc le peuple égyptien va survivre. Le Seigneur va permettre aussi ce qu'on pourrait appeler le maintien du tissu social. Parce qu'un pays qui se mettrait à vivre dans la famine et qui n'aurait pas un minimum d'ordre, c'est Dieu qui a permis que par Joseph, le tissu social égyptien soit maintenu. Parce que durant toutes ces années-là, ça n'a pas viré au désordre. Et aussi, il leur a donné la base pour persévérer dans les années futures. Vous remarquerez dans le texte, ça disait que les Égyptiens, quand ils ont eu tout écoulé, ils ont dit, non seulement donne-nous du pain pour nos corps et pour nos terres, mais après que tout ça a été fini, ils ont dit, donne-nous de la semence pour qu'on puisse continuer. Parce que là, la vie recommençait. Là. Après le cycle de 14 ans, là, autrement dit, Dieu a permis que Joseph leur donne le nécessaire pour qu'ils puissent continuer l'agriculture dans les conditions normales. Donc, le Seigneur a fait beaucoup pour l'Égypte. Il leur a donné beaucoup. Donc, le maintien du tissu social et de l'ordre, c'était quand même très important. Alors, quand on regarde de la manière dont le texte nous parle, on parle d'abord de l'argent. On pourrait dire, s'il y avait tant de blé que ça, pourquoi ils ne donnaient pas aux Égyptiens tout simplement de donner? Parce que qu'est-ce qu'on paye? On l'évalue toujours. Mais quand quelque chose nous est donné, ça aurait pu faire en sorte, un peu comme la Bible dit, quand on est sans travailler et qu'on reçoit tout ce qu'il faut pour... ça risque de tourner mal pour la société. Alors, ça a commencé par l'argent. Après que l'argent était épuisé, ils ont dit, ben, on n'a plus d'argent, mais on va crever de faim si tu ne nous donnes pas quelque chose. Mais là, ils disent, on va faire un échange, emmenez vos troupeaux. Il a tout ramassé ça pour Pharaon. Et ensuite, ben, c'était, là, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste rien que notre corps. Il nous reste nos terres. Donne-nous tout ça. Puis en échange, ben, quand que moi je vous donne quelque chose, à l'avenir, en gratitude, vous donnerez 1/5, autrement dit 20% de vos récoltes à Pharaon. Et vous garderez les 4 autres parties. Alors, si on regarde le caractère de Joseph à l'intérieur de toute l'histoire, de son histoire à l'intérieur du livre de la Genèse, on se rend compte que c'est pas un homme qui a profité de la situation pour s'enrichir personnellement. On voit que c'est un homme intègre, honnête, qui avait une crainte de Dieu. Et il leur assure, le verset 23-26, il leur assure la base pour assurer la prospérité future du pays en leur donnant de la semence. Alors, quand on regarde l'apport de Joseph pour Israël, c'était énorme. Et quand on regarde la part de Joseph pour l'Égypte, c'était aussi énorme. La preuve que les Égyptiens ont quand même accepté qu'est-ce que Joseph apportait dans leur vie, ils ont dit mot pour mot, « Tu nous as sauvé la vie. » Alors, ils se sont rendus compte que sans lui, le pays d'Égypte au complet serait fort probablement disparu. Et la troisième idée, c'est vraiment celle que Dieu se sert de toute cette histoire-là pour continuer la lignée messianique, pour accomplir les prophéties que Dieu avait faites concernant l'avenir de cette nation-là. Parce qu'après la chute, Dieu dit, dans Genèse 3,15, qu'il enverrait un Messie. Et ensuite, il avait fait les promesses de l'alliance à Abraham, et qui s'était ensuite transmise à Isaac, qui sont ensuite transmises à Jacob, et qui vont aller jusqu'à l'arrivée du Messie. Mais à l'intérieur de ça, Joseph se trouve à être une courroie de transmission, se trouve à être un anneau dans la grande chaîne de Dieu. Alors, on voit que l'épreuve sévère a parfois pour effet de nous détourner des choses les plus importantes de la vie. Il devient alors nécessaire de lever les yeux vers le ciel et de nous rappeler que nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers sur la terre et que notre destination finale est céleste et que toutes nos bénédictions, nos épreuves, nos expériences et nos décisions doivent avoir pour objet la gloire de Dieu et trouvent leur source en lui, en Dieu lui-même. Versets 27 et 28, Israël habita donc au pays d'Égypte, au pays de Gozan. Ils acquirent des propriétés, ils s'accrurent et multiplièrent beaucoup. Ce n'est pas un hasard que Dieu les a envoyés dans cette partie-là du pays. Parce que c'était ça le but, qu'ils deviennent une nation puissante. Au point que les Égyptiens, à un moment donné, s'en sont rendus compte, ils ont dit, si on ne fait pas attention, ils sont plus puissants que nous, ils vont nous écraser. Alors c'est ça qui nous amène au livre de l'Exode. Et là, ça nous dit dans le verset 28 que Jacob vécut au pays d'Égypte pendant 17 ans. Et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent de 147 ans. Donc, il a vécu encore pendant 17 ans au pays d'Égypte. C'est intéressant de noter et de se rappeler les versets qui nous parlent de qui amène la prospérité dans nos vies. Ça dit dans le verset 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, « L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au sépulcre et il en fait remonter. » Écoutez bien celle-là, verset 7. « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Il faut se souvenir que dans la vie, il ne faut pas trop penser que nos succès ou nos biens sont... C'est Dieu qui permet que tu t'élèves, puis c'est Dieu qui permet qu'il t'abaisse. Et s'il t'élève parce qu'il y a une raison, puis s'il t'abaisse parce qu'il y a une raison. Et c'est bon de s'en souvenir. Il dit, il relève le pauvre de la poussière, il tire l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les princes. Hey, c'est gros ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, tu es un robineux, puis je peux te faire asseoir avec les plus grands du pays. C'est Dieu qui fait ça dans nos vies, il ne faut pas oublier ça. Il leur donne en héritage un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel. Il a posé le monde sur elle. Très intéressant aussi de voir que comment le Seigneur a travaillé pour amener Israël à se développer. Ils étaient 70. Quand est arrivé le moment de l'Exode, ils étaient rendus plus de 2 millions. Alors, le Seigneur avait organisé ce qui était nécessaire pour la prospérité et le développement de la nation d'Israël pour qu'elle devienne forte avant qu'elle sorte d'Égypte. Alors, dans le psaume 105, versets 23 et 24, ça dit « Alors Israël vint en Égypte, Jacob séjourna au pays de Cam, Dieu fit fort multiplier son peuple et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. Versets 29 et 30 viennent nous rappeler quelque chose. Jacob est en Égypte, il était dans une partie confortable, ses vieux jours assurés avec son fils, il a retrouvé son fils. Il aurait bien pu oublier la destination finale. Jacob est un homme maintenant spirituel. Quand il est parti, là, avec son frère Ésaü, il n'était pas spirituel du tout. Là. Dieu lui a enseigné des choses. Là, il est rendu à la fin de sa vie. Il ne veut pas être enterré en Égypte. Il fait promettre à son fils, « Je veux pas que tu gardes mon corps dans ce pays-là. Quand que je vais mourir, hey, il lui a fait promettre, tu vas me jurer. » Alors, pour lui, c'est vraiment l'idée que l'aspect spirituel de la chose, ma terre à moi, c'est pas l'Égypte, c'est Canaan. Parce que Dieu avait promis Canaan. Et on, bien sûr, on peut voir le côté spirituel de du ciel à travers de tout cela. Alors, il lui exprime un dernier désir avant de mourir. Il fait jurer à son fils Joseph de l'enterrer, non en Égypte, mais en Canaan, avec son père et avec son grand-père. Vraiment, le serment ratifié, par cette époque-là, on faisait... C'était pas la première fois qu'on voit l'idée de mettre la main sur la cuisse. C'était une coutume de l'époque qui fonctionnait comme ça pour quand tu voulais faire une promesse solennelle. Alors, bien entendu, nous autres aussi, dans 2 Pierre, au chapitre 3, et verset 13... On a quelque chose de semblable pour nous. Ça dit, « Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. » Alors, lui, il ne voulait pas rester en Égypte. Nous, non plus, on sait que notre destination finale, ce n'est pas sa terre. On ne s'organise pas pour comme si notre vie serait... La plupart des gens aujourd'hui qui ont de l'argent ou qui ont du pouvoir, on dirait qu'ils veulent s'établir sa terre comme s'ils vivraient toujours sa terre. Nous, on sait que ce n'est pas notre destination finale. Et vraiment, l'idée du verset 31, il veut vraiment être sûr de son coup parce qu'il dit à son fils, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Alors, c'est vraiment la prosternation sur le chevet de son lit. Son lit, c'était de rendre grâce à Dieu, d'adorer le Seigneur parce qu'il savait que son fils, il pouvait se fier dessus, qu'il l'amènerait hors du pays d'Égypte. 3 applications que je vois au texte d'aujourd'hui. Première, c'est que le Seigneur travaille de façon discrète, mystérieuse et gracieuse dans nos vies. Toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les bénédictions dont nous bénéficions, toutes les émotions que nous vivons, toute la protection, toute la direction trouvent leur source dans la main providentielle de Dieu, qui permet que toutes choses travaillent ensemble pour notre plus grand bien. Romains 8:28. OK. Donc, prions le Seigneur que nous imitions Joseph dans sa patience, dans sa confiance, dans son amour et dans la claire perception de l'action divine dans nos vies quotidiennes. Prions le Seigneur de nous montrer cela. Il nous arrive tellement de choses qui sont souffrantes dans nos vies. Prions l'Éternel de nous montrer sa sagesse à travers ce qui nous arrive. Parce que c'est ça que Joseph a fait. Il a su bien interpréter avec le recul qu'est-ce que Dieu faisait dans sa vie. 2e application, rendons grâce à notre grand Dieu qui se sert parfois de ses enfants pour faire du bien à d'autres personnes et même à une nation entière. Des fois, l'Éternel peut se servir de nous pour faire du bien en dehors du peuple de Dieu. C'est ça qu'on voit dans le texte. Il peut se servir de nous pour faire du bien dans nos familles, je dirais, at large, dans nos familles et dans notre milieu, en général. Ça arrive souvent que le Seigneur se sert de ses enfants pour bénir en dehors. Et 3e et dernière, lorsque nous approchons la fin de nos jours, gardons les yeux fixés sur le Seigneur et rappelons-nous la fidélité et la certitude de l'accomplissement de ses promesses, et surtout de notre destinée ultime et finale, la vie céleste pour l'éternité. Rappelons-nous, un peu comme Jacob à la fin de sa vie, il a gardé les yeux fixés sur la destination finale. Nous aussi, faisons la même chose. C'est ce qui nous permet de se rendre jusqu'au bout. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen. Amen.